Bonsoir. Bonjour les gens. Bienvenue. Bonsoir le chat. Comment vous allez les copains? J'espère que ça va. Ah, je quitte Usul à l'instant. T'as vu ces nouvelles coupes de cheveux? Oui, j'ai vu la nouvelle coupe de cheveux d'Usul. C'est l'information principale de ce mois de juin 2024. Nouvelle coupe de cheveux d'Usul. Beau gosse un peu. Très beau gosse. Ouais, il m'a tapé dans l'œil, hein. Ouais, ça lui va bien. OMG. Plus important que Mbappé, bonsoir. Mbappé, c'est celui qui porte un masque? J'ai vu, j'ai rien suivi. C'est l'Euro de football, c'est ça? C'est l'Euro de football, qui c'est qui joue, qui c'est qui gagne, je comprends rien. Je suis pas dedans, hein. Moi, je suis dans l'autre match, la législative. Hop là. Oui, le foot. Ah, c'est du foot. D'accord, donc c'est pas du rugby. Ok. France-Belgique au menu. Ok. Très bien, bah allez les Belges. C'est des copains les Belges, on est avec eux, non? Je sais pas. Kylian Angelo. Oui, j'ai vu. Le truc des Tortues Ninja de Kylian Mbappé. Je trouvais ça très drôle. Ouais, carrément. Non, en foot, les Belges sont l'ennemi. Ah ouais? Carrément? C'est même pas un peu des potes? Les Belges? Ok, hein, moi j'obéis, hein. Vous savez, moi le foot, j'en ai absolument rien à branler. Sauf dans les phases finales de Coupe du Monde quand la France est qualifiée. Alors là, j'ai un avis très arrêté sur les choix du sélectionneur et sur les décisions de l'arbitre. Et puis alors je suis de mauvaise foi. Je suis insupportable. Mais après la finale, ça s'arrête. Je n'ai plus rien à branler. Et on attend la prochaine. Même là, je regarde pas. Oh bah si, quand même! On sort dans les bars. On regarde le match. Va les couper. T'es français, quoi. Ouais, c'est ça, je suis français. Je suis complètement français. Mais c'est vraiment, c'est les phases finales de Coupe du Monde. Avant, les qualifs, ouais. Je regarde pas, ça m'intéresse pas. J'aime pas le foot, non, moi non plus. Non, mais surtout, enfin, je regarde pas le foot. Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, en phase finale, quand je regarde des matchs de foot, je me rends compte à quel point c'est lent. C'est très lent comme sport. C'est pas grave, hein. Mais genre, il y a 3 buts par match à tout péter. Il y a des arrêts de jeu et tout. Non, je suis de mauvaise foi. Voilà, vous l'aurez compris, hein. Je suis de mauvaise foi. Voilà. En même temps, c'est bien, c'est lent, ça permet de boire de la bière. Ça s'appelle un sport à score rare. Intéressant. Alors dans le genre, vous savez, j'ai appris que un sport que je connais pas du tout, dont je ne comprends pas les règles, c'est le cricket, joué par les Britanniques, les Indiens, les Australiens, etc. Et on m'a expliqué qu'en fait au cricket, il n'y a pas de score unique à un match. En fait, au fur et à mesure que le jeu avance, on remplit un tableau de score. Et il y a différents points que tu marques en fonction des phases de jeu, etc. Et du coup, à la fin du match, il peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver qu'on ne connaisse pas le vainqueur du match. Et il paraît qu'il y a des matchs historiques qui ont été joués il y a un siècle, dont les passionnés continuent à critiquer et à discuter le score aujourd'hui. Je trouve ça assez marrant. Le cricket, ça peut être très long les matchs. Ah ouais? Je sais pas, j'ai jamais regardé. Le baseball, c'est chiant. Oh, mais de toute façon, les sports américains, c'est chiant. Le baseball, ça prend une plombe. Ça prend une plombe. Ils ratent la balle 20 fois. Ils avancent pas. Les actions, il y a des pauses entre les actions en permanence. Et c'est pareil pour le football américain. Vous savez pourquoi on a inventé les pom-pom girls? C'est uniquement parce que les matchs sont chiants. C'est les arrêts de jeu, en fait. Pendant lesquels on fait danser des pom-pom girls pour continuer à entretenir le public qui s'emmerde comme un rat mort. Parce que c'est lent. Le football américain, c'est lent. Alors, y a pas que les pom-pom girls, il y a aussi les caravanes publicitaires où on fait passer devant les tribunes littéralement des caravanes, un peu comme les caravanes du Tour de France, avec des camions publicitaires où ils lancent dans la foule des goodies, des trucs comme ça. Pas le basket. Non, t'as raison, pas le basket. Non, c'est vrai. Le basket, c'est ultra nerveux, ultra rapide. Tu bondis sur ta chaise en permanence parce qu'il y a des paniers tout le temps. Ou des actions incroyables tout le temps. C'est vrai que le basket, je suis d'accord avec toi, c'est très nerveux et c'est très chouette. Merde. Le handball, ouais, le handball aussi, le handball. Handball, c'est cool. Handball, c'est impressionnant. Ouais, c'est chouette. Le tennis, c'est chouette. Ah non, tennis, j'aime pas trop, moi. Me fait chier. Me fait un peu chier. Comment va Lopotisha? Lopotisha va bien. Elle est pas là. Elle est sous un meuble comme d'habitude. Lopotisha va bien, mais elle va changer de crèmerie. A priori, dans les semaines qui viennent, je sais pas encore quand. On va la déménager dans une autre famille d'accueil qui a déjà un chat. En espérant que ça la décoince un peu. Le Tour de France ce week-end enfin. Ah, c'est ce week-end le Tour de France? Y a Baxit demain? Ouais, y a Baxit demain. Y a Baxit demain. Mettez tous dans votre agenda demain Baxit. Voilà. Demain, Baxit. Oui, car je vous rappelle que la saison de Baxit aurait dû se terminer avec le dernier épisode que vous avez vu. On avait prévu de faire un dernier épisode de la saison pour clore l'année politique avec le résultat des élections européennes. Analyse des résultats. Bon été à tous. Ciao, bye bye. On se revoit à la rentrée. Sauf qu'il s'est passé ce qui s'est passé. La dissolution. Et donc, j'ai lancé un appel à la communauté. En vous disant que on aimerait bien nous faire des émissions Baxit supplémentaires, mais on n'a plus d'argent parce que la saison est terminée. Si vous voulez voir Baxit à l'occasion des élections législatives anticipées, il faut nous aider financièrement à financer ces émissions pour payer les salaires. Et vous avez été très nombreuses et très nombreux à souscrire à des abonnements et à faire des dons uniques pour rendre possible. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons pouvoir vous proposer trois émissions supplémentaires de la saison. Donc les 3 prochaines semaines. Donc merci du fond du cœur. Continuez à soutenir Baxit parce que ce qui est bien avec les abonnements, donc vous donnez de l'argent tous les mois à Baxit, ce qui est bien avec les abonnements, c'est que ça nous permet aussi d'entrevoir la prochaine saison. Continuons à faire des dons comme ça, on a un revenu mensuel qui est généré et qui nous permet d'entrevoir et de prévoir à l'avance les émissions. Donc on va faire une émission avant le premier tour, une émission entre les deux tours et une émission après le second tour. Grâce à vous, merci. Niveau 3 du train de l'hype, incroyable! Merci pour vos resubs aussi, hein. Merci pour vos abonnements à ma chaîne, ça fait super plaisir. Vous savez, je vous avais expliqué que malheureusement, avec ce qui m'est arrivé médicalement cette année, j'ai perdu énormément d'argent, de revenus en fait. J'ai considérablement réduit mon salaire parce que comme je ne streamais pas, bah, il n'y avait plus d'abonnés. Et oui, c'est la dure règle de Twitch. Il faut streamer pour gagner de l'argent. Merci trop, Jean! Puisque les abonnements mensuels ne sont pas automatiquement renouvelés, pas tous. Et donc ils s'arrêtent, faute de stream. Donc merci beaucoup pour vos abonnements et vos réabonnements. Est-ce que tu vas mieux d'ailleurs? Bah ouais, ça va mieux, ça va mieux. Moi j'ai repris les streams. Ah ouais, ça marche comme ça. Ouais, Nico. Sauf pour toi. Toi, c'est que le talent. Toi, c'est que le talent, Nico. Merci Barmic pour les 5 subs offerts au chat. Je sais pas pourquoi il y a 5 fois l'alerte. Mais merci Barmic. Oui, moi ça va beaucoup mieux. Bah, j'ai repris les streams à l'occasion de la dissolution. Je m'y attendais pas. Je suis le premier surpris, hein, parce que moi je m'attendais à reprendre les streams en septembre. Je pensais que j'allais continuer à rester en convalescence, en ne faisant que Baxit jusqu'en septembre. Mais le dimanche soir des élections européennes, comme je vous avais raconté, j'étais tranquillement en caleçon devant mon ordi. En train de jouer à Battlefield en écoutant la soirée électorale sur France Info, peinard. Petit dimanche soir tranquille, quoi. On tend l'oreille, on a les résultats. Bon, ils sont pas très surprenants, on s'y attendait. Bon, d'accord, les analyses, on écoute. Et là, qu'est-ce que c'est-il que je vois pas? Macron, 20h50, en toute détente. Salut les potos, moi c'est Manu, ça dissout, cash. Ciao! Là, ma mâchoire s'est décrochée. J'ai fait oh putain. Et tout de suite, j'ai ouvert OBS et j'ai cliqué sur lancer un live. Mais vraiment, ça a été un espèce de réflexe, genre ma main avec ma souris là, ma main, elle a fait hop, lancer un live. Direct. What the fuck? Il faut qu'on parle. Oh le con. En slip? Ouais, j'ai streamé en slip. C'est pas la première fois. Faut pas le dire, hein, mais j'ai interviewé des sénateurs en slip. On s'en fout, on voit que le haut, ça va, c'est bon. Super, mais du coup, ça va, l'actu te fait pas retomber. Non, 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 l'actu me fait pas retomber. Non, non, non. Non, non, tranquille. Je suis évidemment la campagne des législatives, j'écoute, je regarde, je lis. Il y a beaucoup de bruit parasite, mais c'est normal, on est dans une élection, il y en a tout le temps du bruit parasite, le pire c'est pendant la présidentielle. Mais il y a des grandes tendances qui se dessinent, il y a des visages qui émergent, et c'est intéressant à suivre. Et puis il y a des analyses aussi qui sont fournies dans la presse, hein. Faut quand même remarquer le travail impeccable des journalistes, du Monde, de Libération, de Mediapart, de Street Press, qui nous fournissent des analyses. Enfin, voilà, ils interviewent des gens très intéressants, qui ont des choses à dire et tout, donc c'est chouette, hein. Salut Jumpsit, des bisous. D'ailleurs, à propos de médias, il paraît, j'ai lu ça, que le Figaro va peut-être être racheté par Vincent Bolloré. Apparemment, maintenant que Serge Dassault est mort, le groupe Dassault se dit, bon, le Figaro, on va peut-être pas le garder, pas vraiment très intéressant. Et Bolloré serait intéressé. Alors ça coûte cher le Figaro, hein, c'est un quotidien, c'est un gros journal qui a une grosse base, qui a un modèle économique, le groupe Figaro, etc. Donc bon, c'est plus cher qu'autre chose, mais Bolloré serait assez intéressant, serait assez intéressé, il aurait un quotidien. En plus d'un hebdomadaire, de deux hebdomadaires, puisqu'il a Paris Match et le JDD, il pourrait s'offrir un grand quotidien national, en toute détente. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Surtout quand on voit ce que devient CNews, surtout quand on voit ce que devient Europe 1. N'y a pas un régulateur de la concentration des médias de quelque sorte? Alors, il existe des règles. C'est ce qu'on avait rappelé dans Baxit avec Usul. C'était les lois R100 qui avaient été votées au milieu des années 80. Les lois R100 qui sont des lois anti-monopole dans le secteur de la presse qui ne concernent que, je crois de mémoire, que les quotidiens nationaux et PQR. Non, l'Arcom ne s'occupe pas de presse écrite. L'Arcom ne s'occupe pas de presse écrite. L'Arcom s'occupe de la télévision et de la radio, ce qu'on appelle l'audiovisuel. Audio, le son, visuel, l'image, télé, radio, c'est tout. Et donc la loi R100, je ne sais plus ce qu'elle prévoit la loi R100, mais de mémoire, c'est une loi anti-concentration, notamment dans les quotidiens. Mais le JDD n'étant pas un quotidien, ça ne pose aucun problème à... Ça ne posait aucun problème à Vincent Bolloré lorsqu'il a racheté le titre. Et pour le Figaro, je ne sais pas. Il n'y a pas une régulation au niveau européen? Non. Il n'y a pas de régulation au niveau européen, ce sont les États qui ont la main sur la régulation des médias. Est-ce qu'il y aura d'autres débats politiques avant les élections? Bah, les élections sont dans 4 jours, hein. Alors je crois que ce soir, il y a un débat qui est organisé par France 2, je crois. J'ai regardé le débat sur TF1. Vous l'avez regardé le débat sur TF1 entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Emmanuel Bompard? Non, oui. Non. Il y a beaucoup de oui. Ok. La France est coupée en deux. La France est coupée en deux. Ok. Il était pas très intéressant comme débat. Enfin, pardon, je dis ça. Pour quelqu'un comme moi qui suit l'actualité politique régulièrement, je n'ai absolument rien appris dans ce débat. C'était pas intéressant. Pour un électeur lambda devant sa télé, c'était peut-être intéressant. Je veux pas préjuger de ça. Mais vous savez ce que je pense des débats à la télé? En période électorale, ça n'a jamais été mon truc. En même temps, il faut que je sois lucide. Je ne suis pas le public visé par ces débats, donc On s'en branle de mon opinion. Et on a bien raison. J'ai trouvé Bompard plus sérieux que les deux autres. Manuel Bompard, il a adopté une stratégie intéressante, c'est celle du calme. C'est celle du calme, de la retenue. Il était souvent en retard par rapport aux deux autres débatteurs en termes de temps de parole parce qu'il les laissait se chamailler, Bardella Attal. Et lui, il attendait son tour pour parler. C'est à double tranchant parce que je pense que ça plaît aux personnes qui aiment bien Manuel Bompard parce qu'ils le trouvent du coup posé et argumenté, rationnel. Mais peut-être que il n'a pas assez percé l'écran. Faute de saillie particulière ou de trucs comme ça. Peut-être qu'il n'a pas assez marqué la rétine des lecteurs qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas. C'est pour calmer les anti-LFI. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a fait ça, Manuel Bompard. Il a adopté cette stratégie parce qu'il sait très bien qu'il y a une volonté à la fois chez Renaissance, chez Attal et Macron, et chez le Rassemblement National, de diaboliser la gauche, d'en faire un espèce de repoussoir, d'irresponsable, des ahuris qui bordélisent l'Assemblée nationale, par opposition aux deux costumes-cravates qui, eux, sont bien élevés et font plaisir aux vieilles dames. Donc effectivement, je pense que Manuel Bompard a eu raison de se comporter comme ça, s'il avait piqué une colère, s'il avait... S'il avait franchi des lignes rouges, quelles qu'elles soient, tout de suite, ça aurait donné de l'eau au moulin de cette diatribe anti-gauche qu'on entend depuis le début de cette campagne. Par contre, on leur apprend pas à faire un nœud de cravate chez LFI. Ah bah tu sais, c'est pas dans la culture, hein, c'est pas dans le lore, hein. Il en fait pas souvent, Manuel Bompard, des nœuds de cravate. Du coup, il est critiqué par son pins. Putain, j'ai vu ça. Oh! Raphaël Enthoven. Non, mais c'est. Enfin. Emmanuel Macron voulait que cette élection, que cette dissolution soit l'occasion d'une clarification. Eh ben, on peut dire qu'il a été entendu par certains. On a clairement vu de quel bois se chauffe un certain nombre de personnes, un certain nombre de responsables politiques. Et des gens comme Raphaël Enthoven, comme Jean Quatremer, etc. Mais fermez vos gueules. C'est insupportable. C'est quoi cette histoire de pins? Manuel Bompard a arboré sur le revers de sa veste pendant le débat un petit pins triangle rouge pointé vers le bas. Ce pins-là, tu l'as sans doute déjà vu, notamment sur le revers des vestes de Jean-Luc Mélenchon, qui porte effectivement un triangle rouge. Depuis le début des années 2010. Ça fait longtemps qu'à la France Insoumise, dans le lore de la France Insoumise, ils arborent ce triangle rouge. Le triangle rouge, c'est un symbole qui vient des déportés prisonniers politiques de la Seconde Guerre mondiale. Donc ces gens qui étaient les juifs portaient l'étoile jaune, et les déportés, notamment communistes, les résistants, les gens qui contestent, enfin les opposants, quoi, qui étaient déportés, on leur mettait un triangle rouge, on les affublait d'un triangle rouge, les communistes notamment. Et donc la résistance communiste s'est réappropriée ce triangle rouge comme une fierté, en arborant le triangle rouge en disant je suis un héritier de la résistance communiste et de la résistance des opposants politiques. Opposant de tous bords, oui, c'est ça. Et Manuel Bompard, en arborant ce triangle rouge lors d'un débat avec Attal et Bardella, c'est assez malin de sa part, puisque c'est une manière pour lui de rappeler qu'il appartient à la tradition politique qui se révèle de la pensée et de la mémoire des déportés de la résistance communiste. Face à un Bardella qui, lui, est descendant des Waffen-SS, qui déportait les communistes, qui tuait les communistes. Voilà. Donc voilà pourquoi il a porté le triangle rouge. Et il se trouve que sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes, comme notamment le philosophe Raphaël Enthoven ou le journaliste Jean Quatremer, qui ont pointé du doigt que le triangle rouge, selon eux, était un symbole antisémite. Était un symbole antisémite parce qu'il aurait été J'ai pas vérifié l'information parce qu'il aurait été arboré par des combattants du Hamas à l'occasion de l'attaque du 7 octobre notamment. Un triangle rouge aurait été peint sur la porte des maisons des juifs qui ont été persécutés. Je sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Et donc, il a toute sa croisade anti-gauche. Il a accusé Manuel Bompard d'avoir arboré un symbole antisémite pendant un débat. Il a été évidemment contredit par tous les journalistes qui ont bossé sur le sujet, toutes les personnes qui savent ce que veut dire le triangle rouge et l'histoire que ça raconte. Donc voilà. C'est les Olympiades des bas de plafond en ce moment. Ah bah tu vois, on parlait de clarification. Peut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui tombent extrêmement bas dans cette ronde de tour. Tiens, puisqu'on parlait de clarification, Emmanuel Macron nous invite à la clarification. Eh ben écoutons-le, Emmanuel Macron. Selon le journal Le Parisien, dans les jours qui suivent, Emmanuel Macron va annoncer que dans les circonscriptions où il y a un second tour qui oppose la France insoumise au Rassemblement national, il a l'intention de ne pas appeler à voter. Voilà. Ça aussi, c'est de la clarification. Emmanuel Macron, qui a lui-même eu besoin des voix de la gauche à deux reprises pour être élu président de la République face à Marine Le Pen, au moment où c'est à son tour de prendre position clairement, alors, je lui accorde que la France insoumise n'a pas pris position clairement pour appeler à voter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a l'intention de renvoyer la balle à Jean-Luc Mélenchon en n'appelant pas à voter clairement pour la France insoumise contre le Rassemblement national. C'est lunaire. Totalement lunaire. C'est une irresponsabilité d'un président de la République qui s'inscrit dans les pas du général de Gaulle, qui s'inscrit dans l'histoire de France, qui s'inscrit dans la Ve République, qui s'inscrit dans l'histoire du centrisme, puisque c'est de là qu'Emmanuel Macron se revendique, la grande histoire du centre français, un centre libéral, un centre européen. Le centre a toujours su faire le front républicain. Toujours. Jusqu'à Macron. C'est gravissime de manque de structure politique, de manque d'éducation politique, de manque de culture politique. Pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, le Front républicain, ce qu'on appelle le Front républicain, ça remonte au 19e siècle, c'est le fait pour un candidat républicain de se retirer d'une élection de se retirer d'une élection au profit d'un autre candidat républicain lorsqu'il y a un péril et lorsqu'il y a le risque que cette élection soit remportée par un bonapartiste, monarchiste, anti-républicain. Ce qu'on appelle faire front républicain. On se désiste entre républicains les uns pour les autres pour sauver ce qui est de plus précieux, la République. Et on ne rigole pas avec ça. Quand il y a danger pour la République, on protège la République et on discute pas. Regardez les mouvements de résistance. Il y avait des gaullistes, il y avait des communistes, il y avait des socialistes dans la résistance. Ces gens-là, dans le maquis, ils étaient ensemble. Et pas de question d'appartenance politique, on résiste face au nazisme. On sauve la France, on sauve la République, on sauve ses valeurs, etc. etc. Bref. Ce principe de front républicain, il a tenu très longtemps. Et quand je dis qu'il a tenu très longtemps, dans les années 90 et les années 2000, ça arrivait. Ça arrivait dans une élection législative, partielle ou pas, que un candidat des Républicains, donc de la droite, du RPR ou de l'UMP, ça dépend de l'année, se retire au second tour au profit d'un candidat communiste. Parce qu'il y avait un risque que la circonscription tombe dans l'escarcelle du Front National. Des gens de droite préféraient voter communiste que de voir arriver le Rassemblement National au pouvoir, le Front National au pouvoir. Et ça marchait dans l'autre sens. Il y avait des candidats communistes qui se désistaient au second tour au profit d'un mec de droite, du RPR, de l'UMP, peu importe, s'il y avait un risque que le Front National gagne la circonscription. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour les acteurs. Je veux dire, on parle de gens qui ont une carrière politique, on parle de gens qui renoncent à un siège de député, pour des gens qui sont engagés politiquement depuis des années, voire des décennies, qui en ont parfois rêvé de cette investiture pour espérer gagner la circo, etc. Il y a des gens pour qui c'est l'engagement d'une vie de devenir député, pour leur circo, pour leur territoire, pour leurs idées, etc. Et ben ces gens-là, ils protégeaient la République. Il a parlé de LFI ou du nouveau Front Populaire plus globalement. Pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est une information du Parisien qui dit qu'Emmanuel Macron va annoncer. Donc c'est pas encore arrivé. Mais d'après, s'ils sont bien informés les journalistes, ils nous ont rendu compte d'une information qui va arriver, où Emmanuel Macron appellerait à voter à ne pas. Enfin, il n'appellerait pas à voter contre les candidats de La France Insoumise. Donc on verra si c'est effectivement ce qu'il dit. On verra. Il est en roue libre. Ouais, et c'est pas la première fois qu'on a un président de la République en roue libre qui met gravement en danger la République. Parce que, enfin, pardon, excusez-moi, j'ai pas envie de faire des grands mots, etc. Mais je veux dire, au point où on en est là, l'enjeu. C'est pas des guerres de partis politiques. On parle de la défense de la République, de l'état de droit. Ça transcende les clivages, ça dépasse largement les questions de politique économique, d'âge de départ à la retraite, de je ne sais quoi. Emmanuel Macron, semble-t-il, en est venu à la conviction que le Rassemblement national n'est pas un parti anti-républicain. Que ce ne serait pas grave pour la République si le Rassemblement national dirigeait. Mais quelle idée est-ce qu'il se fait de la République, ce mec-là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quand même fou. C'est une faute politique très grave. Ouais, et pour paraphraser le chercheur, l'historien... Merde. Qui était sur France Inter, Patrick Boucheron, Emmanuel Macron est sorti de l'histoire. Je suis assez d'accord avec ça. Emmanuel Macron est sorti de l'histoire. Il y est rentré de manière tonitruante en 2017 en devenant un président qui bazarde le paysage politique, qui crée une force nouvelle, quasiment inexistante jusque-là, qui transcende les partis et qui effectivement a l'assentiment d'une majorité de Français qui veulent du changement, y compris en démocratie. Et 7 ans plus tard, il en sort par l'infamie et la mise en danger délibérée de la République. Ciao, bye bye. Terminé. C'est ça son héritage politique. Et bah qu'il le garde. Ça veut dire quoi sortir de l'histoire? Sortir de l'histoire, c'est l'inverse d'entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire, on dit ça d'un grand homme ou d'une grande femme qui a marqué son temps et son époque, qui par des découvertes scientifiques, par l'écriture d'un livre, par un prix Nobel, par la direction d'un pays. Regarde, Churchill, De Gaulle sont des grands hommes de l'histoire, comme on dit. Ils sont entrés dans l'histoire par leurs combats, etc. Sortir de l'histoire, c'est l'inverse. C'est être frappé d'infamie. Ne pas marquer les esprits, ne pas être quelqu'un d'inspirant pour les générations futures. Enfin, on verra, la vie politique des prochaines années va être passionnante à suivre. Abonnez-vous à ma chaîne, évidemment. Mais je serais curieux de savoir quel sera l'héritage politique du macronisme. Traditionnellement, les présidents de la République ont tous laissé derrière eux l'héritage d'un grand parti politique. Et je dis grand parce qu'il faisait de gros scores aux élections et qu'il restait longtemps dans l'histoire de France des partis structurants. Il y avait l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing. Il y avait l'UDR, évidemment, du général de Gaulle. Merci Doidou pour les 5 subs offerts au chat, merci. Il y avait le Parti Socialiste avec François Mitterrand, il y avait l'UMP de Nicolas Sarkozy, enfin bref, voilà, des partis qui survivent à leur créateur, à leur fondateur et au lancement du mouvement. Je me demande ce qui va rester en France de cette parenthèse de 7 ans, parce que pour moi, Macron, c'est fini, au sens de Macron ne va pas gouverner, hein. Là, dans 2 semaines, c'est terminé, Macron, Gabriel Attal n'est plus Premier ministre, quel que soit le score. Quel que soit le résultat de l'élection, ce ne sera pas Emmanuel Macron qui va remporter cette élection. Pas du tout. Est-ce qu'il va rester en France un centre puissant, électoralement successful, comme a pu être l'UDF pendant des décennies, tu vois? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on va revoir un clivage gauche-droite? Après tout, c'est possible. Si les macronistes s'effondrent aux élections, là, on aura un gros bloc de gauche, un gros bloc d'extrême droite, allié à une partie de la droite, mais ils seront pas très nombreux. On aura à nouveau un bipartisme dans ce pays. Peut-être, hein. Peut-être que c'est ça la fin de l'histoire. Peut-être que Macron n'aura été qu'une parenthèse qui est venue perturber le bipartisme et qui a recréé du bipartisme, en plus radicalisé. Parce que au lieu de l'UMP et du PS, on aura LFI et le Rassemblement National. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va rester une tradition centriste qui va s'ancrer dans le temps et qu'on aura de nouveaux candidats qui feront des scores intéressants et qui resteront les juges de paix à l'Assemblée. C'est possible. T'es sérieux? Bah oui, je suis sérieux. Il dit quoi, Bayrou, dans tout ça? Il doit être un peu deg. Ah oui, François Bayrou a fait savoir à je sais plus quel journal qu'il n'était pas du tout favorable à la dissolution. Hein. Non mais personne n'était favorable à la dissolution, à part ses 6 conseillers autour de lui, là. 10 conseillers autour de lui. Attal n'était pas d'accord, Édouard Philippe n'était pas d'accord, François Bayrou n'était pas d'accord. Si, mais Jordan Bardella, t'as raison. Jordan Bardella était d'accord. Darmanin était d'accord. Oui, semble-t-il, oui, tu as raison. Darmanin avait l'air d'accord avec la dissolution. Il a fait partie des comploteurs. La présidente de l'Assemblée non plus. Oui, mais c'est normal. La présidente de l'Assemblée n'est jamais d'accord pour la dissolution de l'Assemblée. C'est normal. Ça, c'est saupoudrage étonnant, ça. C'est son rôle? Bah oui, c'est son rôle. C'est normal que la présidente de l'Assemblée nationale défende la légitimité de l'Assemblée nationale qu'il a élue présidente. Guerre civile. Oh putain, ça aussi. Oh putain. Emmanuel Macron qui parle d'un risque de guerre civile si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir. Mais il s'écoute parler, ce mec. Il se rend compte de ce qu'il dit. Il se rend compte de la gravité de ce qu'il dit. De la violence de ce qu'il dit. Il espère quoi en disant ça? Ça, c'est une autre question que je trouve intéressante. Il espère quoi en disant ça? Parler de guerre civile, il croit quoi? Il croit que les électeurs vont se dire, ah ouais, non, il a raison, c'est chaud, faut voter macroniste, hein. Non, les électeurs macronistes, ils en veulent à Macron d'avoir dissous. Macron dissout l'Assemblée et dit à ses électeurs, votez pour moi, ce sera moi ou le chaos. Ses électeurs lui répondent, bah non, là, c'est toi le chaos. Il a déçu ses électeurs. Pour préparer l'article 16. Non! Non, parce que l'article 16, alors on va lire l'article 16 de la Constitution, parce que je sais qu'il excite beaucoup de monde en ce moment. Hop, texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958. On la connaît par cœur. On y retourne, on est sur le site internet du Conseil constitutionnel. Youhou! Ah là là, qu'est-ce qu'on s'éclate le mercredi soir. L'article 16, il est là. Boum! Alors, on va bien lire parce que c'est important. On va faire du droit. Les enfants, on va faire du droit ce soir. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, le moyen d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. L'article 16 que je viens de vous lire est un article de la Constitution qui prévoit les pouvoirs exceptionnels. C'est un article 16 qui a été mis dans la Constitution par De Gaulle et par Debré en 58 avec un double souci, le souci d'éviter ce qui s'est passé en juin 40. Avec la débâcle et le vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain, qui n'était pas prévu par les lois constitutionnelles de 1875, et par la situation en Algérie. Ok? Les pouvoirs exceptionnels, ce sont des pouvoirs que le président de la République s'octroie à lui-même, si les circonstances le justifient, et qui lui permettent de prendre toutes les décisions qui s'imposent. Mais. Article de dictature temporaire. Oui, mais non, justement, tu vas voir. Parce que l'article 16 prévoit des conditions. Il faut que les conditions soient réunies pour que l'article 16 soit déclenché. Le Conseil constitutionnel veille à ces conditions. Il peut interrompre les pouvoirs exceptionnels si les conditions ne sont plus réunies. Et il faut, en plus, que les décisions prises dans le cadre de ces pouvoirs exceptionnels par le président de la République soient prises dans un but très précis. Regardez. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées, donc ça c'est au choix, l'un des quatre, donc les institutions de la République sont menacées, faut imaginer une guerre. L'indépendance de la nation, faut imaginer l'envahissement par une force ennemie. L'intégrité de son territoire. Pareil, si on nous reprend l'Alsace et la Moselle, ou l'exécution de ses engagements internationaux, pareil, contexte international avec des alliés, des trucs comme ça, sont menacés, et pas n'importe comment, de manière grave et immédiate. Il faut que ce soit grave et immédiat, et ça, le Conseil constitutionnel veille à ça. Et là, il y a un et en droit, c'est très important, parce que ça veut dire que c'est une condition cumulative. Donc il faut qu'une de ces conditions-là soit remplie déjà. Et qu'en plus, il y ait une autre condition, qui est que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. Donc il faut imaginer que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État éventuellement aussi, ne puissent plus fonctionner normalement. Alors, si ces conditions sont remplies, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. C'est effectivement cette rédaction-là qui est très floue. Mais on a des conditions précises, avec une formulation floue qui vient après. Et ensuite, je vous disais qu'il y a encore plus de ça, il y a des conditions aux décisions qui sont prises. Quelles conditions doit prendre le président de la République? Eh bien, l'article 16 le dit. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas libre, on fait pas ce qu'on veut. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Donc, en fait, Emmanuel Macron ne peut prendre qu'un seul type de décision, c'est des décisions qui permettent à l'Assemblée nationale, au Sénat, machin, de fonctionner. On est sur un tout petit territoire parisien, hein. C'est le 7e arrondissement, hein. Pas très grand. Donc, des émeutes dans les banlieues, non. Non, je suis désolé, des émeutes dans les banlieues, ça n'empêche pas les pouvoirs publics constitutionnels de fonctionner. L'intégrité du territoire, ça peut être la situation en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais à condition que la situation en Nouvelle-Calédonie dégénère à tel point qu'il est impossible pour les pouvoirs publics constitutionnels calédoniens de fonctionner. Moi, j'ai pas entendu ça avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, Kanaky, là. J'ai pas entendu ça. Il y avait des barrages, il y avait des émeutes, il y avait la police, etc. Ok, d'accord, situation tendue, je le reconnais, c'est pas le sujet. Est-ce que ça a empêché les pouvoirs publics constitutionnels de Nouvelle-Calédonie de fonctionner? Semble-t-il, non. Donc il n'y a pas d'article 16. On touche pas. Quelle signification précise a pour inspiration? Il n'y a pas de pour inspiration. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres délais, etc. Donc le Conseil constitutionnel, il reçoit sur son bureau une saisine, par 60 députés d'opposition, par exemple, c'est un peu le principe, qui lui disent, nous on trouve que c'est. Il faut sortir des pouvoirs exceptionnels, machin. Et il va, le Conseil constitutionnel, il va faire un rôle de juge. Donc il va estimer, il va regarder les décisions qui ont été prises par le président de la République. Donc le président de la République a pris la décision d'envoyer dans le 7e arrondissement de Paris des blindés. De réunir en urgence le chef d'état-major des armées, d'accord, et il a réformé les retraites. Là, le Conseil constitutionnel, il va regarder, il va faire ta-ta-ta-ta-ta. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fout là, la réforme des retraites? C'est pas du tout inspiré par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel les moyens d'accomplir leur mission. Ça n'a rien à voir. C'est un cavalier législatif, donc ça dégage. Voilà. Qui vérifie que les conditions sont remplies? C'est le Conseil constitutionnel. Donc, l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, bon, j'arrête. C'est de la merde. C'est un article de merde qui n'a rien à faire là, qui est d'un autre temps, qui n'apporte pas suffisamment de garanties de contrôle démocratique sur les décisions qui sont prises. De toutes les manières, on a un problème dans la Constitution de la Ve République sur l'irresponsabilité politique du président de la République, clairement. Il faut le dégager, cet article de merde, ou le réécrire complètement et le repenser complètement. Il est notamment dangereux dans la perspective d'un président de la République qui ne respecte pas l'état de droit et qui décide de profiter de l'article 16 pour faire n'importe quoi, en se disant que le Conseil constitutionnel, on l'emmerde. Ça durera pas longtemps, mais ça peut faire des dégâts sérieux. Ça peut vraiment faire des dégâts sérieux. Ça peut remettre en cause l'état de droit, le respect de la loi. Enfin, on peut avoir des juges qui se rebellent. Enfin, ça peut être extrêmement dangereux, notamment entre les mains de l'extrême droite, hein, clairement. Comment ils sont élus les membres du Conseil constitutionnel? Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés, je crois que c'est pour 9 ans de mémoire, et ils sont nommés, il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 qui sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale, 3 qui sont nommés par le président du Sénat, et les candidats nommés doivent faire l'objet d'une audition et d'un vote conforme, je suis pas sûr, je crois pas, par la commission des lois de l'Assemblée nationale ou du Sénat, en fonction de qui nomme. Ça, c'est une manière de contrôler qu'on nomme pas n'importe qui. Faut quand même des gens qui ont un minimum de compétences en droit constitutionnel. Pourquoi on appelle cet article l'article des pleins pouvoirs si en fait c'est que des pouvoirs limités, je comprends plus. C'est par raccourci de langage qu'on dit les pleins pouvoirs. Parce qu'encore une fois, l'énoncé de l'article n'est pas flou quant aux conditions réunies, mais il est flou quant à la marge d'appréciation que le président de la République peut avoir dans les décisions qu'il prend. Le président de la République prend les mesures exigées par ses circonstances. Ça, c'est une rédaction de merde en droit. Faut pas faire ça. Coucou les députés. Faut pas écrire les trucs comme ça. C'est de la merde. Ça permet des interprétations extrêmement larges par un juge qui peut faire du zèle, etc. Donc on verra s'il est utilisé cet article 16, mais je vous en rappelle encore une fois les conditions pour qu'il soit utilisé. Il faut que les conditions soient remplies, il faut que la permanence des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompue, il faut que les institutions, l'indépendance de la nation ou l'intégrité du territoire ou les traités internationaux soient menacés de manière grave et immédiate. C'est écrit précisément comme ça. Alors le président de la République peut décider ce qu'il veut, mais ces décisions doivent être inspirées par la volonté de permettre aux pouvoirs publics constitutionnels de reprendre leur travail normalement. Donc en gros, on dégage les gravats et les barricades dans le 7e arrondissement de Paris et on permet à l'Assemblée nationale et au Sénat de se réunir. Évidemment, je caricature, parce que si la situation arrive à enflammer le pays au point qu'il y ait des barricades dans le 7e arrondissement de Paris, pour vous dire que c'est jamais arrivé dans l'histoire, c'est pas le quartier. Effectivement, il y aura d'autres décisions à prendre sans doute. Mais des décisions de pouvoir de police, de rétablissement de l'ordre, de... Je sais pas, des couvre-feux, des trucs comme ça. Mais on a déjà l'état d'urgence, hein. Il faut imaginer une situation dans laquelle se trouve le pays, dans laquelle l'état d'urgence n'a pas suffi. L'état d'urgence, je vous rappelle, c'est quand même vénère, hein. L'état d'urgence, ça libère quand même pas mal les pouvoirs de police, ça ouvre des perspectives de ouf pour le maintien de l'ordre, c'est quand même un arsenal juridique qui a été renforcé à travers plusieurs lois. Bon, l'état d'urgence, c'est déjà costaud. Faut imaginer que l'état d'urgence ne suffise pas. C'est rare quand même, les situations où ça suffit pas. On rappelle que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler les actes pris en application de la Constitution. Bien sûr que si, c'est même son rôle. De contrôler l'application de la Constitution par les lois. Les lois, elles sont prises en application de la Constitution, par les procédures prévues par la Constitution. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur de l'état d'urgence aux mains du RN? Oui. 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 L'état d'urgence, comme je vous le disais, encore une fois, il a été réformé à plusieurs reprises, il a été élargi, facilité, etc. Les pouvoirs de police en situation d'état d'urgence sont très importantes. S'il y a un préfet nommé par le Rassemblement national qui a l'état d'urgence dans son département, moi, je m'inquiète sérieusement pour les personnes qui n'ont pas la peau blanche. Hors sujet, est-ce que quelqu'un sur Toulouse veut un chaton? Ils sont tout frais, tout chauds, mais c'est horrible. Tu fais tes petites annonces dans les chats Twitch? T'es mort? L'état d'urgence, c'est département par département. L'état d'urgence peut être décidé nationalement, mais a priori, il est plutôt décidé par département, puisqu'il permet au préfet, donc là, je rappelle que la circonscription du préfet, c'est le département, il permet au préfet d'avoir des pouvoirs de police élargis. Donc en gros, la dernière fois que l'état d'urgence a été utilisé de manière massive sur le territoire hexagonal, c'était pendant les émeutes dans les banlieues en 2005. Et l'état d'urgence a été déclenché en Seine-Saint-Denis, Dans l'Essonne, je crois, dans les Hauts-de-Seine, je suis même pas sûr, dans la banlieue lyonnaise, dans la. Enfin bref. Et c'était, voilà, c'était quelques départements. Là, plus récemment, il y a eu l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, dans le département de la Nouvelle-Calédonie. Pour les raisons que vous connaissez, on les a analysées sur Baxit. Qui déclenche l'état d'urgence? C'est le Premier ministre qui déclenche l'état d'urgence. Et il est appliqué l'état d'urgence par son ministre de l'Intérieur, qui, comme vous le savez, est le ministre qui chapeaute la police et les préfets. Covid, c'est pas d'état d'urgence? Non, au moment où il y a eu le Covid, on a inventé un nouveau type d'état d'urgence qui s'appelait l'état d'urgence sanitaire, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a une loi qui a été votée pour créer l'état d'urgence sanitaire, qui est un peu le pendant sanitaire de l'état d'urgence sécuritaire, plus classique. Et qui permettait, mais l'état d'urgence sanitaire, il permettait de démultiplier les moyens des services de santé. Donc c'était une explosion de l'offre de soins dans les hôpitaux. Il y a même eu l'armée, les services de santé des armées, les SSA, qui se sont déployés. Je me souviens, c'était à Strasbourg, je crois. Donc Bardella, il pourra déclarer l'état d'urgence comme il veut. Non, parce que le déclenchement de l'état d'urgence doit faire l'objet d'un contrôle par le Conseil d'État, je crois. Ah oui, Mulhouse, t'as raison. Mulhouse. Non, non, l'état d'urgence doit faire l'objet d'un contrôle. Mais si Bardella est Premier ministre, j'en déduis par ta question qu'on imagine que Jordan Bardella est Premier ministre. Auquel cas, ça veut dire qu'il a une majorité qui le soutient à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella pourra faire voter par cette majorité une nouvelle loi état d'urgence qui étend encore plus les pouvoirs de la police. Alors, cette loi sera contrôlée par le Conseil constitutionnel qui vérifiera quand même que cette nouvelle loi état d'urgence RN ne contrevient pas à la Constitution et donc à la garantie des libertés publiques, etc. Mais bon, vu comment le Conseil constitutionnel a pas toujours censuré par le passé les lois sur état d'urgence, faut pas trop en attendre. D'une manière générale, faut pas trop attendre du Conseil constitutionnel. Enfin, si, il faut, parce que c'est notre juge constitutionnel, donc c'est lui qui protège la Constitution. Et si Jordan Bardella arrive au pouvoir, croyez-moi les copains, on va en avoir besoin de la Constitution. On va vraiment avoir besoin de cette Constitution et des libertés qu'elle protège, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 46, la Charte de l'environnement, etc. On va vraiment avoir besoin de cette Constitution et je pense qu'on va souvent attendre les décisions du Conseil constitutionnel en croisant les doigts pour qu'il censure les décisions prises par une assemblée RN. Pourquoi est-ce que c'est pas des experts constitutionnalistes qui sont au Conseil constitutionnel? Hop là. Pourquoi les anciens présidents et des gens nommés? Alors les anciens présidents, c'est pour des raisons historiques. C'était pour des raisons historiques en 1958, on savait pas où foutre les anciens présidents de la 4ème République, donc on a mis ça dans la Constitution. En vrai, on s'en branlait un peu, c'était pas très intéressant. De toutes les manières, le Conseil constitutionnel dans les années 60, il servait à rien. Avant les jurisprudences des années 70. Le Conseil constitutionnel, je crois qu'il a été saisi que 3 fois. C'est vraiment de la merde. Et bref. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait proposé de modifier la Constitution pour retirer les anciens présidents du Conseil constitutionnel, ce qui était une bonne idée. Mais Emmanuel Macron n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa réforme constitutionnelle, sinon vous auriez été au courant, évidemment. Et pourquoi est-ce que c'est des personnes qui sont nommées? Parce que les rédacteurs de la Constitution voulaient se garantir d'avoir des personnes nommées par des responsables politiques qui ont donc conscience des réalités politiques pour éviter d'avoir ce qui a toujours fait horreur aux rédacteurs des constitutions, ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Le risque d'avoir un pouvoir judiciaire complètement déconnecté de toutes les réalités politiques et sociales et autres. Qui fonctionne en vase clos, qui se nomme lui-même, qui se contrôle lui-même, et là ça fait peser un risque sur le politique. Quid si le Conseil constitutionnel. Attends, non, merde, j'ai pas vu ta question, excuse-moi. Par quelle manœuvre le RN pourrait remettre en cause le Conseil constitutionnel ou l'affaiblir? Il ne pourrait pas. Il serait obligé de modifier la Constitution. Le RN aurait besoin de modifier la Constitution s'il voulait affaiblir le Conseil constitutionnel. Pour modifier la Constitution, il faut avoir une majorité des 3/5 au Congrès, ou alors il faut faire un référendum, mais pour faire un référendum, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat votent conforme. Est-ce qu'un gouvernement majoritaire peut supprimer le Conseil constitutionnel? Non, c'est ce que je viens d'expliquer. Non. Non, non, il y a quand même une solidité des institutions qui fait que tu ne peux pas, d'un trait de plume, avec une simple majorité à l'Assemblée, supprimer une institution de la République. C'est protégé par la Constitution, donc il faut aller plus haut que ça. Est-ce que ça se dissout les sénateurs? Non. Le Sénat est indépendant. Il est indépendant du pouvoir du président de la République et du gouvernement. Les sénateurs ne peuvent pas être inquiétés par le gouvernement, par la majorité à l'Assemblée ou par le président de la République. Référendum à la De Gaulle. Alors, tu as raison d'en parler. En 1962, le général De Gaulle a décidé d'un référendum. Il a demandé aux Français, il leur a proposé une modification de la Constitution en leur disant, est-ce que oui ou non vous voulez que désormais le président de la République soit élu directement par vous. Qu'on appelle le suffrage universel direct. Le problème, c'est que le général de Gaulle, pour faire ce référendum, il a utilisé un article de la Constitution, qui est l'article 11, qui n'est pas censé servir à modifier la Constitution. L'article 11 permet effectivement au président de la République de déclencher des référendums sur des lois normales, ce qu'on appelle des lois ordinaires. Le président de la République peut demander aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre la retraite à tel âge, etc. Ces référendums-là sont effectivement prévus par l'article 11, c'est possible. De Gaulle, il a utilisé cet article pour une modification de la Constitution. Eh bien, il n'avait pas le droit de le faire. Il n'avait pas le droit de le faire, il l'a fait quand même. À l'époque, ça passait crème parce que c'était le général de Gaulle, parce qu'on n'osait pas s'opposer à lui. Le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi, je crois, de mémoire. Je me souviens plus en 62 si le Conseil constitutionnel a été saisi ou pas, mais en tout cas, le référendum a vraiment eu lieu. Aujourd'hui, avec les évolutions du droit constitutionnel, on estime que ce ne serait plus possible. Un président de la République ne pourrait plus faire ce qu'a fait De Gaulle en 62, parce que pour déclencher un référendum, le président de la République a besoin de prendre un décret de convocation des électeurs, et le décret de convocation des électeurs d'une modification de la Constitution ne pourrait pas passer par l'article 11, et ça, le Conseil d'État le censurerait. Ou le Conseil constitutionnel, je sais plus lequel des deux est saisi. Donc, ce serait plus possible. Voilà. C'est quoi le Conseil d'État? Le Conseil d'État, c'est la Cour suprême de l'ordre administratif. Demain, il y a Baxit. Oui, demain, il y a Baxit. Mesdames et messieurs, notez bien dans votre agenda, demain, il y a Baxit. Soyez là, ça va être une super émission. On a plein d'invités politiques. Soyez là, ça va être cool. Et c'est grâce à vous qu'il y a Baxit demain, parce que je vous rappelle que normalement la saison aurait dû se terminer. La saison aurait dû se terminer à la dernière émission après les européennes, c'est ce qu'on avait prévu. Mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec la dissolution, et le problème c'est qu'on n'avait plus d'argent, on ne pouvait pas faire d'émissions supplémentaires. Et donc on a décidé de vous demander de contribuer financièrement. Pour nous permettre de faire des émissions supplémentaires. Et grâce à votre mobilisation et grâce à vos abonnements, on va pouvoir faire des émissions supplémentaires pour couvrir cette période incroyable des élections législatives. Qu'est-ce que ça veut dire saisir le Conseil constitutionnel? Quelqu'un doit le convoquer, on ne peut pas décider de lui-même qu'il doit intervenir. Non, les autosaisines du Conseil constitutionnel, c'est très limité. Le conseil constitutionnel, pour se prononcer sur une loi, par exemple, il doit être saisi. Et saisi, c'est comme un juge, hein. Saisir un juge, c'est lui demander de répondre à une question de droit, en fait, c'est ça? Si t'as un problème avec ton voisin, vous êtes en désaccord, vous allez devant un juge en demandant au juge de trancher votre différend. Et bah c'est à peu près pareil. Pourquoi il y a tant de disparités entre les différents organismes de sondage? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'ai vu passer sur Internet des sondages sur les élections législatives, et donc des sondages qu'on appelle de projection de siège. C'est-à-dire qu'on vous montre le schéma de l'Assemblée nationale et on vous met des couleurs pour vous montrer la répartition par groupe. OK? Moi, j'ai vu ces schémas passer, j'ai vu ces trucs-là passer. Je vous rappelle, chers amis, qu'il faut faire extrêmement attention aux sondages et aux projections de sièges dans le cadre des élections législatives. Ça n'a rien à voir avec une présidentielle ou des européennes. Là, c'est beaucoup plus facile. On peut faire des sondages très facilement, on demande aux gens pour qui vous voulez voter, et il y a un score, la proportion, etc. On fait des corrections en fonction des tendances, machin. Les sondeurs savent faire ça. Là, on parle d'une élection à deux tours, avec des règles très particulières de maintien au second tour, et avec des possibilités de désistement au second tour. Ce qui fait que ça crée un nombre d'incertitudes énormes dans chaque circonscription qui rend quasi impossible les projections par siège. Il peut y avoir des triangulaires, il peut ne pas y avoir de triangulaires, il peut y avoir une forte mobilisation des électeurs, il peut y avoir une forte abstention. Et ça change les scores. Je vous rappelle que les élections législatives, le maintien au second tour se fait si vous avez plus de 12,5% des inscrits. Des inscrits, pas des votants. Des inscrits sur les listes électorales. Donc, la participation, le taux d'abstention joue un rôle énorme. Parce que ça va déterminer s'il va y avoir une triangulaire ou pas. Et s'il y a une triangulaire ou pas, bah ça change la donne dans la circonscription. Et ça peut donner des résultats très différents, s'il y a des désistements ou pas. D'ailleurs, puisqu'on parle de désistement, c'est intéressant parce que, ça on va en parler demain sur Baxit, on est en train de vivre une période intéressante, on est à 4 jours maintenant du premier tour de ces élections législatives, et commence à se poser la question du comportement des différents responsables politiques et des formations politiques entre les deux tours de l'élection. Quelles vont être les consignes de vote et quelles vont être les consignes de désistement des partis politiques? Tout à l'heure, Marine Tondelier, la patronne des écolos, a annoncé clairement que si jamais les écologistes, dans une circonscription, arrivent en troisième position, derrière un macroniste et derrière évidemment un Rassemblement national, alors les écolos se désisteront du second tour pour permettre aux macronistes d'être élus et faire ainsi barrage au Rassemblement national dans la circonscription. Le PS est sur la même ligne. Je crois que le PS est sur la même ligne. J'ai entendu François Hollande le dire. Je crois. Mais le parti, je ne suis pas certain. S'il n'y a que 12,5% de participation dans une circo, on fait comment? Si jamais la participation est trop faible dans une circonscription pour permettre de départager deux candidats au second tour, alors on choisit les deux candidats arrivés en tête au premier tour, quel que soit leur score. Et on fait un deuxième tour avec ces deux candidats. Panot et Aubry pour LFI aussi, je crois. J'ai entendu effectivement Panot et Aubry annoncer qu'en cas de... Si jamais un candidat LFI arrivait en troisième position dans une circonscription derrière un macroniste, alors le candidat LFI se désisterait du second tour pour permettre l'élection d'un macroniste, pour éviter l'élection d'un lepéniste. Et je vous le disais tout à l'heure, on en discutait tout à l'heure, vous et moi, Emmanuel Macron va probablement décider de ne pas appeler à voter au second tour en cas de duel. RN-LFI. Entre RN et LFI, Macron choisit de ne pas choisir. Mais au-delà de cette position honteuse d'Emmanuel Macron, moi ce que je me demande, c'est pas ça. Parce que ça va arriver dans quelques circonscriptions, mais pas toutes. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que si un macroniste arrive en troisième position derrière un LFI, le macroniste se désiste au profit du LFI. vu que les LFI font la même chose dans les autres circonscriptions. Est-ce que la règle du désistement républicain, ce qu'on appelle le désistement républicain, est-ce que cette règle-là va s'appliquer partout? Eh ben, on le verra, les amis. On le verra. C'est une des questions qui, moi, m'anime le plus en ce moment, parce que c'est une vraie question que j'ai envie de poser à tous les politiques, parce que c'est une question importante. C'est une question qui en dit beaucoup aussi sur les politiques, et donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. Je pense qu'il est possible qu'on ait des décisions prises séparément, circonscription par circonscription. Je pense que ça va dépendre des circos. Gros matraquage médiatique pour dire que LFI équivaut au RN ces dernières semaines. Ah non, c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. C'est pour dire que LFI est plus dangereux que le RN. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Y a qui comme invité demain à Baxit? Va voir sur le Twitter ou sur l'Instagram de Baxit. Tu verras, c'est annoncé. Tu te rends compte, tu invites Poutou. On a déjà invité Poutou sur Baxit. Macron, il a dit 4 fois plus dangereux. Il parlait du programme. Il parlait du programme de LFI. Si les macronistes se retirent, c'est au profit de NFP ou du RN. Moi, je ne pense pas que les macronistes vont se retirer au profit du RN. Je pense qu'ils n'iront pas jusque-là. Je pense qu'ils donneront pas de consigne de vote, ce qui est un manque de courage et une honte absolue. C'est un refus de faire barrage à l'extrême droite. Et je pense qu'il est possible que dans quelques circonscriptions, des macronistes se retirent au profit du nouveau Front populaire contre le RN. Je pense qu'on aura des décisions courageuses prises par quelques macronistes localement. Tu vois, par exemple, un Clément Beaune. Bon, il a été assez clair sur ses convictions, Clément Beaune. Il est radicalement opposé à l'extrême droite, il l'a toujours dit, il est homosexuel, etc. Donc, lui, il n'hésitera pas. Je pense, si d'aventure il arrivait en troisième position, à se retirer. En plus, dans sa circo, ça doit être un socialiste, ça doit pas être un LFI, donc c'est plus facile. Attal est pas clair. Il y a beaucoup de partis qui sont pas clairs clairs. Hein. Il y a beaucoup de partis qui sont pas très très clairs sur cette question des désistements, et c'est normal. Soyons pas naïfs, soyons lucides. Les partis politiques sont en campagne. Ils ont pas très très envie, avant le premier tour, de nous dire quelles seront les consignes après le premier tour, parce qu'ils ont envie de massifier le nombre de votes au premier tour. Donc, les partis, pour l'instant, ils esquivent un peu la question, ils veulent pas y répondre, ça les fait chier. En gros, on verra. Donc c'est normal. Les partis n'ont pas envie de démobiliser leur électorat. Si t'as un responsable politique qui, à la télé, te dit « Ah, au second tour, je me désisterai dans les circonscriptions », bah ça donne pas envie de voter pour lui, c'est le mec qui part perdant, là. Enfin, c'est... Ok, en gros, tu vas te désister, donc ça sert à rien de voter pour toi. Parce que tu vas te désister au profit de l'autre. Bah moi, dans ma circo, je vais pas voter pour toi, je vais voter pour l'autre. Dès le premier tour. Tu trouves que c'est le cas pour Tondelier? Non, Tondelier, elle a été très claire. Tondelier a été très claire, ça je le reconnais. Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, des écologistes, pardon, ils ont changé de nom, elle a été très claire. Est-ce que Pradier fondera un nouveau parti? Oui, j'ai appris qu'Aurélien Pradier quittait les Républicains. C'est intéressant cette décision de quitter les Républicains d'Aurélien Pradier. Parce que pourtant, ils étaient en train de reprendre le pouvoir en interne. Les pro-Pradier, justement, les anti-Ciotti. Mais je pense qu'il. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Il a dit qu'il n'y croyait plus. C'est-à-dire que pour lui, LR est un parti mort. Je suis pas d'accord avec lui. Donc il va peut-être rejoindre Horizon, mais en même temps il n'est pas macroniste, Pradier. Rappelez-vous, on l'avait interviewé sur Brexit, c'était hyper intéressant. J'ai une question qui me tourne en tête ces derniers temps. Si le RN obtient une majorité relative sans les Républicains, mais que les Républicains s'associent effectivement au RN, pourront-ils avoir une majorité absolue? Les LR seront-ils comptés parmi les bancs du RN pour la majorité? C'est une très bonne question que tu poses, Select, parce que je me suis fait la même réflexion que toi. J'ai regardé un peu les intentions de vote, les machins et tout, je me suis dit, attends, 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 attends. Les LR ont refusé pendant 2 ans de faire alliance avec Emmanuel Macron. Éric Ciotti a l'air chaud pour faire une alliance avec le RN, mais la grande majorité des Républicains n'ont pas envie de faire une alliance avec le RN. Qu'est-ce qui empêche les députés RN de siéger en tant qu'indépendants? En disant je fais pas partie de la majorité de Bardella. Par contre, quand il y a des textes de loi, je les amende et je les vote. Parce que si le Rassemblement national a une majorité relative, alors il va avoir besoin de convaincre des députés LR de voter leur loi. Donc, loi par loi, les députés LR vont pouvoir jouer au jeu de ah, je sais pas si je vais la voter, ta loi, si tu prends mes amendements, je la voterai, mais faut que tu prennes mes amendements, voici mes amendements, etc. Donc on peut se retrouver dans une situation où le Rassemblement national a une majorité relative, mais ils ont un appui ponctuel des Républicains pour faire passer des lois, et ils ont une abstention des Républicains sur les motions de censure. Donc la gauche et les macronistes ne peuvent pas faire tomber le gouvernement Bardella, qui n'est pas pour autant dans une position facile, confortable, puisqu'il doit en permanence aller chercher les LR pour voter les lois. En vrai, ça se tient. C'est à quelle heure le résultat dimanche? C'est à 20h. Je serai en stream, évidemment. Vous serez là. Je le sais. Ce que faisait déjà Macron ces dernières années. Ce qu'essayait de faire Macron ces dernières années, il n'a pas toujours réussi, hein. Une coalition du PS à Horizon, est-ce que c'est réaliste? Non. Non, j'y crois pas. Je n'arrive pas à croire que des députés socialistes qui ont été élus contre des candidats Renaissance dans leur circonscription s'allient à Renaissance à l'Assemblée. Il y a un moment, il faut être juste cohérent, les gars. Enfin, vous présentez des candidats face à moi, on n'est juste pas d'accord, en fait. En plus, les socialistes ont signé le nouveau Front Populaire. Donc ouais, non, j'y crois pas. Ou alors pour quelques lois, tu vois, c'est. J'en reviens à l'hypothèse que je formulais tout à l'heure d'un rassemblement national avec une majorité relative qui gouverne, mais c'est chaud. T'as aussi la possibilité d'avoir un gouvernement technique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de majorité. Il y a juste des députés qui se mettent d'accord pour permettre à la machine de continuer à fonctionner. Genre vraiment faire voter des lois comme des budgets, par exemple, pour que les fonctionnaires soient payés. Pour pas rajouter de la crise à la crise, quoi. Pour passer des lois aux ZEF pendant un an. Ouais, c'est ça, pour passer des lois aux ZEF, des lois techniques. Ça se vote des budgets? Ah bah oui. Chaque année, les députés votent le budget. Chaque année, à l'automne, les députés discutent et votent le budget de la nation pour l'année suivante. C'est un des textes de loi les plus importants de l'année. Le budget, c'est ce qui détermine la politique d'un gouvernement la plupart du temps. Penses-tu que le Front Populaire peut la gagner la majorité ou c'est chaud? Je pense que c'est chaud. Je pense que c'est chaud. Ça va demander une mobilisation massive des électorats qui n'ont pas voté aux européennes. Les électorats qui n'ont pas voté à la présidentielle. Il faudrait qu'un sursaut se déclenche, mais dans des proportions énormes, pour que le Front populaire y arrive. C'est faisable. C'est faisable. Mais c'est pas le plus probable des scénarios. D'autant que je rappelais que les électeurs du Rassemblement national, eux, ils sont très mobilisés. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sentent le goût de la victoire. Ils commencent à toucher du doigt la possibilité de barder la Premier ministre, ce dont ils ont très envie, donc ils vont aller voter avec entrain et sourire le dimanche. Là où les électeurs de gauche vont un peu plus traîner la patte, parce que la gauche est divisée, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils n'ont pas confiance, etc. La gauche aussi est très mobilisée, notamment niveau militant, c'est abusé. Bah ouais, mais enfin, je suis désolé de te l'apprendre, mais c'est pas les militants qui font des électeurs, hein. J'en ai connu beaucoup des militants très mobilisés qui ont essuyé des défaites électorales. Malheureusement. Pour eux. Est-ce qu'on peut imaginer un vote de scrutin où la pondération de ton vote dépend de ton âge? Non, parce que c'est contraire, au principe d'égalité. En démocratie, une personne égale une voix. L'augmentation de la participation aux prochaines élections annoncées par les médias favorise quel parti? Je crois que l'augmentation de la participation favorise le nouveau Front populaire. J'ai pas grand-chose pour le justifier, c'est un peu un ressenti personnel. Je pense que beaucoup d'électeurs se mobilisent contre la perspective du RN au pouvoir. Notamment des électeurs qui se disaient les européennes, j'en avais rien à branler. Vraiment, ça m'a pas intéressé, c'était chiant. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai fait des moins bons scores d'audience sur Twitch pendant toute la période des européennes, parce que ça mobilise beaucoup moins les élections européennes, voilà, c'est habituel. Mais là, le risque d'avoir le RN au pouvoir, la perspective tangible de l'extrême droite au pouvoir, mobilise les électeurs pour aller aux urnes voter contre. Salut, je découvre ta chaîne, merci. Merci à toi, bienvenue. Je suis toujours surpris par les projections du RN qui a tant de sièges. En effet, sur les élections à 2 tours, je vois pas comment ils ont entre 220 et 280 sièges au second tour, sachant qu'on ne sait même pas si Renaissance appellera à voter NFP ou RN, peu probable, ou blanc. Les médias sont pas encore en train de nous enfumer. Non, les médias sont pas en train de nous enfumer, et je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Attention aux sondages de projection de sièges. Vous pouvez regarder les sondages sur les intentions de vote au global. C'est toujours intéressant à savoir. Il y a TKL qui l'a mis dans le chat là. 30% NFP, 31% RN. Le reste, c'est bloc présidentiel et plus petits groupes. Donc ça, ok, c'est intéressant. Ça donne des tendances. Ça montre à peu près que les Français, ok, comment ils votent. Mais en réalité, ce que tu dis est juste. C'est qu'en fait, c'est par circonscription que l'élection se fait et qu'il y a trop d'inconnus par circonscription. Il y a l'inconnu de la triangulaire ou pas. Il y a le nombre de voix pour se qualifier au second tour ou pas. Les désistements ou pas. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais les projections de sièges, je vous invite à rester prudent. La primo sortant ou pas, ouais, t'as raison, la primo sortant, je sais pas du tout si ça va jouer ce truc-là, hein. Le barrage contre le RN va vraiment marcher. Les électeurs de gauche et de Macron ne pourraient pas voter RN au deuxième tour. Non. Non, les électeurs de gauche au premier tour ne vont pas voter RN au second tour. Ils vont voter pour le candidat qui aura et qui sera le mieux à même de faire barrage au Rassemblement national. Si possible, quelqu'un de gauche, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc non. Par contre, là où ce que tu dis est intéressant sur le barrage face au Rassemblement national, c'est quel va être le comportement électoral des électeurs macronistes dans les circonscriptions dans lesquelles il n'y a pas de macronistes au second tour. Est-ce qu'ils vont s'abstenir d'aller voter? Moi, j'en connais qui m'ont dit ça. Ou est-ce qu'ils vont aller voter pour le candidat de gauche en se bouchant le nez, en disant ça vaut mieux que le Rassemblement national? La gauche ne représente plus rien. Oh, tu peux pas dire ça, la gauche elle est en progression, c'est le deuxième plus gros bloc politique de ce pays, la gauche. Excuse-moi, hein. Pas complètement vide, la gauche. Ça dépend qui est le candidat de gauche. Ça dépend peut-être qui est le candidat de gauche, effectivement, ouais. Le barrage républicain, c'est primordial et cela permet d'obliger Usul à voter pour Renaissance en plus. Ah, mais Usul, il a toujours été très clair là-dessus, hein. J'étais d'accord avec lui. Au second tour, Macron-Le Pen, je vote Macron. Rien à foutre. Qui sera le Premier ministre à gauche? Ça, c'est une question piège. Qui sera le Premier ministre à gauche? J'en sais foutre rien. Et c'est ça qui est drôle. Voilà, tu vois, le chat est rempli par des noms différents. Ça répond à ta question. Il n'y a pas d'accord à gauche sur le nom d'un Premier ministre. Il y en a un à l'extrême droite, il y en a un au centre, enfin chez les macronistes. Bonjour, merci pour votre émission qui m'a raccroché à la politique. Je voterai après 7 ans d'abstention. Si le RN passe, est-ce qu'on peut s'attendre à un blocage du pays dans un élan démocratique? Écoute, c'est difficile à dire. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il faut s'attendre, dans un premier temps, je pense, à des explosions de colère et de contestation qui pourront prendre la forme d'émeutes et ou de manifestations massives qui pourront ou pas durer et s'installer comme un mouvement durable. Il faut quand même se dire que ces manifestations vont être montées en épingle par le gouvernement de Jordan Bardella, qui va utiliser l'argument en permanence dans les médias de dire « Regardez, ils cassent tout, ils manifestent, c'est qu'ils sont contre la démocratie. » Grand classique. Les gens qui gagnent les élections et qui critiquent les manifestants en disant « Ils sont contre la démocratie a parlé, le peuple s'est exprimé, regardez, ils sont contre la démocratie. Ils veulent bloquer les institutions, etc. » Ça, c'est un argument qui va porter auprès de beaucoup d'électeurs, notamment les électeurs qui auront voté Rassemblement National. Si le RN passe, comme tu dis, ça veut dire qu'une majorité d'électeurs aura voté RN. Qu'en tout cas, une majorité de circonscriptions auront envoyé un député RN à l'Assemblée nationale. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Donc il y aura quand même une force politique non négligeable de ces gens-là. Ce qui peut se passer si le RN passe, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec un mouvement social, un mouvement populaire, un mouvement démocratique qui prend corps, qui prend forme et qui se transforme en une force politique à même de renverser l'extrême droite. Mais quand je te dis ça, je fais un peu mon apprenti sorcier de la politique parce que c'est ce qu'on a pu voir par le passé, mais pas toujours. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, notamment quand le gouvernement est d'extrême droite. Je veux dire, le droit de manifestation. Les militants antifascistes, les militants dans les quartiers populaires vont être persécutés par la police. Enfin, c'est pas évident, hein. Regardez, on a appris là aujourd'hui la dissolution du GUD, par exemple. Le groupement Union Défense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe étudiant d'extrême droite historique, amateur de ratonnades et autres passages à tabac de militants antiracistes. Elle a été décidée par Gérald Darmanin, cette dissolution du GUD, il a dissous également d'autres groupuscules d'extrême droite, notamment à Lyon. Et dites-vous bien que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est eux qui vont dissoudre des organisations. Et vous vous doutez bien desquelles? La Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, Oxfam, je sais pas moi, les associations antiracistes, SOS Racisme. La Jeune Garde, les Restos du Cœur, la CRIMED, attaque, attaque évidemment, les écolos, Les écolos qui se font épingler à Sainte-Soline, etc. Ouh là là, les éco-terroristes, machin, Greenpeace et tout. Alors, attention, parce que je vous rappelle encore une fois que pour dissoudre une association, il faut des arguments juridiques solides. Parce que la décision de dissolution d'une association peut être attaquée en justice par la dite association, qui va voir un juge en lui disant « Je ne suis pas d'accord avec la décision du gouvernement de me dissoudre, voici mes arguments juridiques, il n'a pas le droit de me dissoudre. » Notamment l'argument de la liberté associative. Donc, pour qu'un gouvernement obtienne la dissolution confirmée par la justice d'une organisation, il faut qu'il soit solide juridiquement. Donc, très pessimiste comme avis, je trouve. Oui, je suis pessimiste dans la liste des organisations que je te donne. Mais je t'explique juste derrière que, attention, ça peut pas, non. Une dissolution d'association, c'est pas un claquement de doigts. Ça doit quand même être solide et c'est contesté en justice après. Donc il faut être solide juridiquement. Mais la volonté de l'extrême droite de dissoudre des organisations d'extrême gauche, et je mets des guillemets à extrême gauche parce que je vous jure que l'extrême droite et moi, on n'a pas la même notion d'extrême gauche. Ils en ont une extension bien plus extensive que moi et ils vont pouvoir s'amuser à dissoudre des organisations que vous et moi on juge des organisations peut-être un peu radicales, peut-être un peu exagérées, etc., excessives, et que eux vont juger terroristes et vont dissoudre en Conseil des ministres. Tu viens juste de dire que c'est justement pas si facile. Oui, c'est pas facile d'avoir la confirmation en justice, mais le simple fait d'acter la dissolution, c'est déjà foutre le bordel suffisamment fort. T'as pas besoin de. Vous savez, c'est le principe des procédures bâillons. Quand vous voulez emmerder une association, un média qui vous ennuie, qu'est-ce que vous faites? Bah vous portez plainte contre lui, vous faites des procédures à répétition, vous l'emmenez devant la justice. Et bah c'est pareil avec un gouvernement qui fait la chasse à une organisation et peut s'amuser à le tenir par le bout des. Ils font des contrôles fiscaux inopinés, des visites de la police, des amendes. C'est facile hein, de casser les burnes à une organisation. C'est très facile. Tu fiches S ses représentants, ses responsables, qui ont des difficultés, leurs proches, etc. Ils se retrouvent au chômage, perdent leur emploi, perdent leur pension, c'est. Tu leur retires leur passeport, tu fâches. Un gouvernement qui a décidé de s'en prendre à une organisation, croyez-moi, il a les moyens de la faire chanter. Si elles certaines sont excessives, comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas une bonne chose leur dissolution? Non! Non! La dissolution d'une association n'est pas une bonne chose. Si une association est excessive selon mes critères à moi de ce qui est excessif ou pas, on ne doit pas la dissoudre. On dissout une association lorsqu'elle contrevient à la loi. Qui est la loi pour tous, je rappelle, la même loi pour tous, et lorsqu'elle présente un danger. Mais une association excessive, c'est pas illégal d'être excessif, hein. Ils ont le droit de crier fort, les gens, hein. Moi, ça me fait chier, ça me perce le tympan, ça m'énerve. Et alors? Quel est l'impact réel de cette dissolution du GUD pour ses membres? Alors, il faut encore attendre que cette dissolution soit confirmée par la justice, parce que je suppose que les membres du GUD vont contester cette décision de dissolution au tribunal. Une association dissoute, c'est une organisation qui n'a plus le droit d'exister, donc qui n'a plus d'existence légale, dont les membres n'ont plus le droit de se réunir, dont les activités doivent cesser. Et les membres d'une association dissoute qui recréerait une nouvelle association pourraient se faire traduire en justice pour le délit de reconstitution de ligue dissoute. Il y a justement un délit qui existe, qui consiste à reformer une organisation qui a été dissoute par décision validée par la justice. Donc voilà, c'est ça, une dissolution d'une organisation, c'est ça. Merci pour ton stream, ça me donne envie d'aller voter après 14 ans d'abstention de ma part. Fais ce que tu veux, moi je te force pas à aller voter, fais ce que tu veux. Est-ce que tu pourrais m'expliquer si les électeurs écoutent en général les consignes de vote de leur parti? C'est une bonne question que tu poses. C'est une bonne question que tu poses. Les Français ont tendance à avoir de moins en moins d'appartenance partisane. Les Français voilà, ont tendance à de moins en moins respecter les partis politiques, à aimer les partis politiques. On le voit dans beaucoup d'enquêtes d'opinion. Il y a une disqualification de la parole politique, qui fait qu'effectivement, ce que racontent les politiques, les Français ont plus tendance à s'en cogner qu'avant. Ceci étant, les consignes de vote sont des éléments intéressants qui participent à aiguiller les électeurs dans leur choix au second tour. Donc les électeurs peuvent s'en foutre de ce qu'a dit le chef, ou la chef. Et faire ce qu'ils veulent au second tour, ou estimer que c'est plus intéressant de faire comme ci, faire comme ça. Donc chacun en conscience vote comme il veut, mais les consignes de vote sont un élément utile pour savoir quoi faire. Par exemple, si Emmanuel Macron, pardon, dit qu'en cas de second tour LFI, RN, il n'appelle pas à voter qui que ce soit, il choisit de ne pas choisir, alors c'est une incitation pour ses électeurs à ne pas aller voter, à rester chez eux, à s'abstenir. Moi, le jour suivant de la dissolution, j'ai eu un coup de sueur. Je me suis inscrit sur LFI à 40 ans. Comme quoi? Ah, c'est cool, t'es LFI. Tu as voté quoi au Congrès? Est-ce que tu penses que l'absence d'un candidat Premier ministre nommé à gauche nuit à la campagne du NFP? Je dirais pas que ça nuit au nouveau Front populaire le fait de ne pas avoir de candidat Premier ministre. Je pense que c'est un manque à gagner. Je pense que c'est un manque à gagner. Je pense que le nouveau Front populaire gagnerait en clarté face aux électeurs s'il avait un candidat ou une candidate. Disons que c'est pas démobilisant pour les électeurs de gauche qui de toutes les façons voteront au nouveau Front Populaire, hein, ils vont pas tortiller, hein, ils vont pas attendre le nom d'un Premier ministre pour voter. Les électeurs modérés, les électeurs abstentionnistes, est-ce que l'absence de leader les empêche d'aller voter? Honnêtement, je pense pas, parce qu'il y a quand même pas mal de responsables politiques qui s'expriment. C'est aussi l'intérêt de cette absence de candidat Premier ministre, c'est que du coup, dans les médias, il y a plein de gens différents du nouveau Front Populaire. Donc ça démultiplie les voix, dans certains points de vue, ça démultiplie les canaux. Ensuite, l'inconvénient, soyons honnêtes, l'inconvénient d'un Premier ministre, ou d'un candidat Premier ministre plutôt, bah, c'est que c'est à double tranchant. T'as ceux qui l'adorent et qui donc vont voter pour lui parce qu'ils l'aiment bien, mais t'as aussi ceux qui l'aiment pas, qui en ont peur, qui je sais pas quoi, etc. Donc tu perds aussi des voix. Donc c'est un savant mélange, ça dépend de ton candidat. Ça dépend de ton candidat. Il faut que ton candidat plaise, et si possible que ton candidat plaise auprès des populations dans lesquelles tu as des réserves de voix à aller chercher. Si ta réserve de voix elle est chez les macronistes, il faut que tu aies un candidat plus mou. Ça favorisera le vote des modérés. Si ta réserve de voix elle est chez les abstentionnistes dans les quartiers populaires, alors il faut un candidat radical qui pourra leur plaire. Merci pour ta réponse, je voterai mou. A priori, tu n'auras pas trop le choix, hein, c'est le Front populaire qui décide. La présence de Mélenchon, selon toi, fait plus de bien ou de mal à LFI? Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur argument de la France insoumise, et c'est son pire défaut. Et il est les deux à la fois. Il est à la fois ce grand tribun de la plèbe qui redonne de la fierté au vote, notamment des catégories populaires, dans les élections présidentielles où il est candidat. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un trublion qui fait peur à un électorat modéré. Qui n'apprécie pas le personnage qu'il est, son caractère colérique, ses emportements contre les journalistes, etc. Donc, Jean-Luc Mélenchon, pour paraphraser, je ne sais plus quel politologue, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a brillamment amené la gauche jusqu'à 22% au premier tour de la présidentielle en 2022, et c'est aussi celui qui n'arrivera jamais à aller au-dessus de 22%. Il a atteint le plafond de verre, il a atteint son propre plafond de verre. Parce que ses marges de progression ne sont plus là. Mélenchon est quelqu'un, c'est un leader charismatique qui est très clivant, comme on dit. On l'aime ou on le déteste. Quand on l'aime beaucoup. T'as qu'à voir les mélenchonistes sur Internet, comment ils donnent de la voix. Mais pas seulement les mélenchonistes sur Internet, aussi les électeurs mélenchonistes. Moi, je discute avec des militants insoumis qui me disent, quand on va diffuser des tracts militants sur les marchés, les personnes modestes à qui on propose des tracts, ils reconnaissent tout de suite la tête de Mélenchon sur le tract. Aucune autre tête. C'est Jean-Luc. Et Jean-Luc, il l'aime bien, et Jean-Luc, ils ont voté pour lui, et donc ils vont aller voter pour lui. Et donc ils m'ont dit, pendant toutes les européennes, on s'est cassé le cul à les tracter avec la tête de Manon Aubry sur les tracts. Bon, on avait rajouté Jean-Luc parce que les gens comprenaient mieux. Mais voilà quoi. Est-ce que tu penses qu'il pourrait dissoudre des associations de festivals? Je sens les artistes musicaux tendus sur le sujet. Ah, je pense que les Technival, c'est terminé, ouais, si le RN est au pouvoir. Je pense que la fête de l'Huma risque d'en prendre un coup aussi. L'intermittence aussi. Ah, le régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle n'est pas dans les priorités du Rassemblement national, loin de là. Est-ce que t'as vu ce qui se passe en Bolivie? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Je t'avoue que je suis un peu focus sur la politique française. À mon grand désarroi. Backseat à la fête de l'UMA serait donc une reconstitution de ligue dissoute, et on serait fiers. On serait fiers de reconstituer la ligue de la fête de l'humanité. Ouais. Il y a un coup d'état militaire en cours en Bolivie. Oh merde, faut que j'aille voir ça. Quel avenir vois-tu à cette mouvance violente de l'extrême droite? Comment l'endiguer? Bah, tu m'accorderas que l'extrême droite violente, elle a le vent en poupe en ce moment. L'extrême droite, déjà électoralement en Europe et dans les démocraties occidentales, a le vent en poupe. Donc il n'y a pas de raison que sa composante violente, soit en régression. Je veux dire, on constate une augmentation des violences d'extrême droite dans la rue. Donc je vois pas pourquoi elle s'arrêterait demain matin, ça peut prendre du temps. Ça peut être long et difficile. Ça aussi c'est un point important. Ça aussi c'est un point important dans cette stratégie d'Emmanuel Macron qui consiste à renvoyer dos à dos l'extrême droite et la gauche, et plus précisément l'extrême droite et la France insoumise, en disant que la France insoumise est d'extrême gauche. Et en disant qu'il y a une montée des populistes, une montée des extrêmes, etc. Je voudrais qu'on soit assez clair sur ce sujet. Il n'y a pas de montée de l'extrême gauche en France en 2024. Ce n'est pas vrai. De deux choses l'une. Soit vous considérez que la France insoumise est d'extrême gauche, soit vous considérez que la France insoumise n'est pas d'extrême gauche. Qu'elle est un parti de gauche comme les autres. Il y a plusieurs gauches en France. La France insoumise en est une. Il y a aussi le PS, les écolos, les communistes, etc. Dans les deux cas, il n'y a pas de montée de l'extrême gauche. Si vous considérez que la France insoumise est un parti d'extrême gauche, alors je vous invite à constater que la France insoumise faisait 22% à la présidentielle en 2022 avec Jean-Luc Mélenchon, et que la France insoumise en 2024 aux européennes fait 8%, 10% pardon, avec Manon Aubry. Si vous considérez que la France insoumise est d'extrême gauche, vous êtes obligé de constater qu'elle est en recul, cette extrême gauche. Elle marche moins bien. Elle fait pas des bons scores. Par comparaison à Jordan Bardella, Marine Le Pen faisait 25% à la présidentielle, ils sont passés à 30%. Ils sont en progression, l'extrême droite est en progression. Deuxième cas de figure, vous considérez que la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, que c'est un parti de gauche. Auquel cas, il faut appeler un chat, l'extrême gauche en France, elle existe, c'est les communistes révolutionnaires. Il y a en France une extrême gauche, elle existe, elle a des partis, elle a des représentants, elle a des organisations, elle a une pensée, une idéologie. L'extrême gauche en France, historiquement, c'est le communisme révolutionnaire que vous retrouvez dans des partis politiques, notamment le NPA et Lutte ouvrière, pour citer les plus connus, mais aussi des syndicats, des associations, des organes divers et variés, les anarchistes, etc. L'extrême gauche en France, elle est ridiculement petite électoralement. Elle est en recul total. En 2002, à la présidentielle, l'extrême gauche faisait 10% des voix au premier tour. Un Français sur 10 votait extrême gauche, pardon, un électeur sur 10 votait extrême gauche en 2002. En 2022, l'extrême gauche, ils font 1 ou 2%. Philippe Poutou, c'est que dalle. C'est un tout petit parti. La preuve, ils sont complètement écrasés et ils se sont divisés en deux. Du coup, le nouveau parti anticapitaliste. Aujourd'hui, on a Philippe Poutou qui va se présenter dans une élection législative, dans une circonscription dans laquelle il a besoin du vote des socialistes, des communistes et des écologistes et des insoumis pour être élu. Quand on connaît l'histoire de l'extrême gauche en France, c'est un peu ironique. Mais c'est comme ça. Donc non, il n'y a pas de montée de l'extrême gauche en France. Il y a une diminution de l'extrême gauche en France. Il y a une montée du racisme, par contre, ça c'est vrai. Il y a une montée de l'extrême droite, ça c'est vrai. Pourquoi dans ma circonscription, il y a une liste NFP et une liste écologie en même temps? Alors, il n'y a pas de liste, il n'y a que des candidats. Le candidat écolo, ça doit pas être un candidat d'Europe Écologie Les Verts. Parce que l'Europe Écologie Les Verts est signataire du Nouveau Front Populaire, donc ça doit être un autre parti écologiste. Vous savez, il y en a d'autres des partis écologistes en France. Tu peux expliquer l'ironie de la chose? L'ironie de la chose, c'est que l'extrême gauche s'est construite et a construit son parcours, sa pensée, etc., sur une critique radicale des partis de gauche plus modérés, notamment du Parti communiste, notamment du Parti socialiste. Pourquoi est-ce que l'extrême gauche fait 10% des voix en 2002? C'est parce qu'on sort de 5 ans de Parti socialiste, Parti communiste et Parti écologiste au gouvernement. Et tous les gens de gauche déçus de Lionel Jospin, ils ont voté Philippe Poutou et Arlette Laguiller. Tous les deux ont fait 5% à peu près. Et à l'époque, moi j'étais devant ma télé, je me souviens très très bien des représentants de la Ligue communiste révolutionnaire, de l'extrême gauche, qui disaient sur tous les plateaux télé, on est contre les socialistes, on est contre les communistes, c'est des nuls, c'est des mous, nous on est pour la révolution. Besancenot. Besancenot, pardon, en 2002, excusez-moi, c'était Olivier Besancenot, sa première campagne. Donc c'était cette gauche-là, la gauche critique du bilan de Lionel Jospin, des privatisations, etc. Et moi, ça me fait marrer, parce que je trouve ça rigolo, 20 ans plus tard, d'avoir Philippe Poutou qui se présente sous la bannière Nouveau Front Populaire, donc soutenu par les écolos, les communistes, les socialistes, ce qui veut dire que s'il sera élu député, ce sera grâce à ces voix-là qu'il a pourtant conspué pendant tant d'années. Le contexte a changé. Ah bah oui, le contexte a changé. La preuve que le contexte peut beaucoup changer de choses en France. Il n'a pas de chance de se faire élu. Je sais pas, je connais pas sa circonscription à Philippe Poutou. J'ai pas regardé. C'est à Carcassonne, c'est ça? Ça marche comment si les dissidents qui se revendiquent NFP gagnent? Est-ce que ça compte pour le NFP? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour les dissidents qui se revendiquent du NFP alors qu'ils n'ont pas été investis par un parti du NFP dans leur circo. S'ils gagnent la circo, est-ce qu'ils vont siéger avec le groupe des députés qui avaient investi l'autre camarade? Pour te répondre, ça se fait au cas par cas. Voilà, comprenne qui pourra. Après, ce député ou cette députée peut refuser de siéger dans le groupe. C'est ce qu'on avait vu avec le Parti socialiste, notamment, où il y avait des candidats socialistes dissidents qui avaient été élus députés et qui avaient dit fuck, je vais pas aller siéger avec le Parti socialiste, moi. Hein. Ils m'ont refusé l'investiture, on n'est pas potes. Hein. Olivier Falorni, pour ceux qui s'en souviennent, on pense à lui, qui avait battu Ségolène Royal quand même. Hein. On est quand même sur de l'ironie. Est-ce qu'il y a vraiment une différence au final s'ils votent comme le nouveau Front Populaire? Non, tu as raison, ce qui compte au final, c'est les votes. Je suis d'accord avec toi. Ce qui compte au final, c'est les votes. C'est la confiance votée à un gouvernement, c'est la motion de censure, c'est le budget, etc. Donc oui, non, effectivement, ce qui compte à la fin, c'est le vote. Effectivement, si le vote est similaire, en fait, on s'en branle, c'est une tempête dans un verre d'eau, on s'en fout de savoir si tel député trucmuche siège au sein du groupe machin. Rien à foutre. Tant qu'il vote. T'as l'air épuisé. Et pourquoi vous me dites ça? J'ai vraiment l'air épuisé? Vous êtes chiant. Non, ça vous faites plaisir. Ça va. Tu es rayonnant. Il est juste vieux. Mais nique ta mère. Merci, Pac Benou, pour les 10 subs offerts au chat. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, t'as la pêche. T'es calme et clair. J'essaye de l'être. J'essaye de l'être pour vous aider au maximum. J'essaye de répondre à vos questions. 50? 50 subs. Quoi? Ah oui, putain! Pac Benou a offert 50 abonnements communautaires. 50! Putain, merci beaucoup. Vas-y, ça fait longtemps.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 50 subs offerts. Moi, dans ma circo, c'est Paul Molac qui va sans doute être élu sans étiquette, plutôt à gauche, mais il n'est pas rattaché au Nouveau Front Populaire, je suis déçu. Ah non, mais Paul Molac, c'est un député régionaliste, il peut pas être dans le Nouveau Front Populaire. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Est-ce que tu participes au stream populaire? Je sais pas, j'ai signé la tribune, mais j'ai pas eu d'infos sur l'organisation du bordel. Je crois qu'ils sont en train de travailler dessus encore. Merci, Emoji Moon, qui offre combien de subs? Ah, avant ça, il y avait O du Can, Duncan, qui avait offert 10 abonnements communautaires.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, encore une fois. Et merci Emoji Moon qui renouvelle son sub. Dans ma circo, il y a un candidat sans nom. Photo de Zemmour, aucun nom de candidat. Ça veut dire qu'il n'avait pas été choisi au moment du dépôt des listes. Alors, ce que ça peut vouloir dire, c'est que c'est un candidat reconquête qui n'a pas eu le temps ou l'argent d'imprimer de nouvelles affiches et qui a donc ressorti des affiches Zemmour pour les coller. Mais je suis pas sûr que ce soit légal. Si je me souviens bien, il y a des règles assez précises sur les. Enfin, des règles assez précises, pas plus que ça, mais sur les affiches électorales où doit quand même y avoir le nom du candidat, le nom du suppléant doit apparaître aussi. J'insiste un peu, si le Conseil d'État est bien compétent pour dire si un parti est extrême ou pas, pourquoi il ne prend pas publiquement et force à publier un démenti à l'encontre de tous ceux qui présentent la gauche comme étant extrême? Le Conseil d'État n'a pas compétence pour dire si un parti est extrême ou pas. Le Conseil d'État a compétence pour arrêter dans les préfectures les listes et les fléchages de candidats à gauche ou à droite. Et à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ce qu'on appelle la caractérisation politique, divers droites, divers gauches, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, etc. Tinku qui a offert 50 subs! 50 subs au chat! 50! 50 subs, incroyable! Incroyable! Allez, on s'ambiance! Incroyable. Merci Tinku pour les 50 subs offerts au chat. Ça fait super plaisir. Merci à toi. Donc je reviens sur cette histoire de Conseil d'État. Je reviens sur cette histoire de Conseil d'État. Les préfectures sont chargées, elles s'occupent avec le ministère de l'Intérieur, comme vous le savez, des opérations électorales. Et donc les préfectures collectent les votes des bureaux de vote, compilent les résultats, les envoient à Paris, etc. Merci Barmic, Barmic qui offre 50 subs au chat. Mais c'est incroyable, mais je peux rien expliquer dans cette émission. Combien ? 50 subs. 50 subs de Barmic. Mon Dieu. Extraordinaire, merci beaucoup. Non, non, ta gueule, c'est bon. On va le faire deux fois de suite. Incroyable. Je sais plus ce que j'expliquais. Conseil d'État, extrême gauche, extrême droite. Donc, les scores nationaux donnés aux résultats des élections sont compilés avec le nombre de voix et le pourcentage de voix, évidemment, comme vous le savez. Et il y a une dénomination qui est donnée à chaque candidat ou liste politique, ça dépend des élections, par les services du ministère de l'Intérieur, qui estiment que tel parti appartient à l'extrême gauche, tel candidat est plutôt proche de la divers gauche, divers droite, etc. Machin. Et il se trouve qu'il y a des candidats qui sont pas contents de la dénomination que leur accole le ministère de l'Intérieur. Ça les énerve. Ils sont pas contents, ça les fait chier. Par exemple, le Rassemblement National n'aime pas être appelé extrême droite. Ils l'ont fait savoir publiquement, dans les médias, etc. Donc, ce que font ces candidats, c'est qu'ils portent plainte devant un tribunal administratif pour contester la décision administrative des services de l'État de leur accorder telle dénomination. On remonte la hiérarchie judiciaire, comme vous le savez, tribunal administratif, cour administrative d'appel, et on arrive jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État, qui est le juge suprême de l'ordre administratif, et qui tranche une bonne fois pour toutes la question. Et en l'occurrence, le Conseil d'État a rendu des décisions par le passé, dans lesquelles il considérait qu'il n'était pas exorbitant d'appeler le Rassemblement national extrême droite. Et qu'à l'inverse, il n'était pas exorbitant d'appeler la France insoumise de gauche. Ok ? Le Conseil d'État prend ses décisions. Le Conseil d'État fixe le droit, et si la décision avait été différente, ça aurait obligé le ministère de l'Intérieur à changer les choses. Vous n'êtes pas obligé, vous, de respecter les décisions du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il dit le droit, mais il ne dit pas l'opinion. Moi, ça m'arrive d'être en désaccord avec le Conseil d'État. Bon, très bien, je ne suis pas d'accord avec lui. Il estime des trucs, je ne suis pas d'accord. Et alors ? Dans un débat démocratique, on a le droit de ne pas être d'accord. Donc, les médias ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les médias ont le droit d'accloler des qualificatifs à des partis politiques. Ils ont le droit. C'est la liberté de la presse. C'est la liberté des médias. C'est votre liberté à vous de citoyen. OMG, on n'est pas tous une administration ? Non. Non, non. Donc, les services du Premier ministre ont l'obligation de respecter les décisions du Conseil d'État, puisqu'ils sont soumis au droit public, donc à la juridiction administrative. Très bien, ça fonctionne, c'est bien, c'est carré. Mais vous, vous êtes des citoyens, vous êtes des libres penseurs. Vous pouvez pas être d'accord, hein. C'est pour ça que moi, je fais attention de ne pas toujours renvoyer cette question au Conseil d'État. Est-ce que le RN est d'extrême droite ? Ah, le Conseil d'État a dit oui. Donc c'est que c'est oui. Ah non. Moi, je m'arrête pas à ça. Le Conseil d'État, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai d'autres raisons pour lesquelles le RN est d'extrême droite. C'est d'autres arguments. Donc voilà. Pour moi, le RN est d'extrême gauche alors. Tu sais, je te rappelle qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelle Éric Zemmour, et qui défendait en 2022 le fait que Marine Le Pen était de gauche. Fin de citation. Dans son référentiel à lui, Marine Le Pen est de gauche. Bon, très bien, hein. Et dans le référentiel de l'extrême gauche communiste révolutionnaire dont je parlais tout à l'heure, le Parti communiste, c'est de droite. Ok. Si vous voulez, vous avez le droit. Chacun son référentiel, chacun sa manière de voir les choses. On n'est pas obligé d'être consensuel et de tous être d'accord sur les dénominations des choses. Les services gouvernementaux sont censés respecter les décisions du Conseil d'État ou pas? Oui, bien sûr. Ma mère m'a bien dit la télé est de gauche en 2021. Voilà. Non mais c'est au demeurant, t'as raison. Moi je vois passer des gens sur Twitter qui disent le paysage médiatique est acquis à la gauche et à l'extrême gauche. Et à chaque fois ils citent France Inter quotidien. Ok. Bon, bah je suis pas d'accord. Mais c'est, parce que c'est pas les mêmes choses qui me brûlent les oreilles sans doute. Ça doit être ça. Les médias, ok, mais le président qui parle d'extrême gauche pour le NFP, eh ben je suis pas d'accord avec lui. Je suis en désaccord profond avec Emmanuel Macron sur sa manière de considérer notre espace politique. Lui, il considère que la France insoumise, c'est l'extrême gauche. Moi, je considère que la France insoumise, c'est de gauche. Et que l'extrême gauche, c'est autre chose. Bon, bah, on n'est pas d'accord, le président et moi. Du coup, si c'est une chaîne de télévision publique, elle doit respecter le Conseil d'État. Pas sur ce genre de décision, non. Il y a une liberté des journalistes, il y a une liberté de la presse qui est garantie par la loi et par les statuts des organisations d'audiovisuel public. Tu trouves pas que certains membres de LFI semblent être haineux? Non! Non, alors, oui, évidemment, mais j'ai envie de te dire, ça fonctionne pareil pour tous les partis qui ont un grand nombre d'organisations et de militants. Il y a des militants LFI... qui s'adonnent volontiers au harcèlement en ligne et qui, à mon avis, font du mal à leur boutique. Mais c'est mon avis. Eux, ils sont convaincus d'être dans leur bon droit, de participer à la bataille culturelle, etc. Mais ce qui motive profondément les militants insoumis, c'est pas la haine. C'est pas des gens portés par la haine. Je trouve pas qu'il parle un peu fort quand même. Si, il parle fort sur les réseaux sociaux, mais toute la France n'est pas sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que la plupart des électeurs sont pas sur les réseaux sociaux. Hein. Les gens qui votent, c'est les vieux. C'est les retraités. Une idée du positionnement du groupe Liot au milieu de tout ça. Non, le groupe Liot, c'est un groupe d'opportunité en fait. C'est pas vraiment un groupe politique au sens de colonne vertébrale politique commune entre ses membres. Le groupe Lyot, c'est le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, Lyot. C'est un groupe qui a été fondé par des députés indépendants, en fait. C'est des députés régionalistes, pour beaucoup d'entre eux. Des députés corses. Des députés, Paul Molac, enfin des députés de leurs régions respectives qui ne s'inscrivent pas dans des groupes politiques qui défendent leur territoire. Donc c'est un peu un groupe qui grappille à droite à gauche. C'est pas un groupe qui a une idéologie politique précise. Il n'y a aucune consigne de vote, il n'y a aucune discipline de vote, chacun fait ce qu'il veut. En fait, c'est des députés qui étaient séparés, enfin qui étaient isolés les uns des autres, et qui se sont dit ce serait mieux qu'on fasse un groupe tous ensemble, à nous les petits députés indépendants, plutôt que de rester séparés, parce que à l'Assemblée nationale, quand vous avez un groupe, vous avez plus de pouvoir. Donc voilà. Lyot, ce qu'on peut dire, c'est que Lyot est un groupe qui s'est plutôt montré hostile à Emmanuel Macron. Voilà, ça c'est à peu près certain. Ils ont déposé une motion de censure, ils en ont voté d'autres, ils ont souvent voté contre. Voilà. De Courson, c'est quoi son positionnement? De Courson, c'est un centriste. De Courson, c'est un centriste libéral, centre-droit. S'ils n'ont pas de consigne de vote, à quoi ça leur sert d'être unis? Ça leur sert à avoir des salles de réunion, à avoir des collaborateurs partagés, à avoir des temps de parole et à siéger à la conférence des présidents. Voilà. Ça leur sert ça. Ça leur sert à ça. Ça leur sert à exister dans l'agenda parlementaire. Ça leur sert à avoir des niches parlementaires aussi, parce que chaque groupe en a une. Donc voilà, c'est un groupe un peu singulier, un peu particulier. Après, c'est pas un groupe très important, il représente très peu de gens. À partir de combien les groupes à l'Assemblée? Je crois que c'est 15. Je crois que c'est 15. Bon, je vais m'arrêter là, les copains. Je vais m'arrêter là. Demain, on se retrouve pour Backseat, je vous rappelle. Soyez présents, ça va être une chouette émission. On l'a fait grâce à vous, grâce à vos abonnements. C'est grâce à votre mobilisation. Continuez à vous mobiliser pour soutenir Backseat, on a besoin de vous. Pour continuer, je vous fais des gros bisous, les copains. Passez une bonne soirée et à demain. Salut tout le monde.